on va rebondir sur un autre aspect. Le mois de Hadar, c'est Venafochou, hein, c'est le mois où tout se transforme. Miyagon et Simcha, de la peine à la joie.
À la joie, oui.
Et si c'est un mois où on peut transformer de la peine à la joie, on peut transformer du rachat au tzaddik. C'est ça, Arur Aman Baruch Mordechai, qu'on puisse pas faire la distinction. Et on doit soi-même se transformer. Mais comment on va se transformer? Eh bien, par rapport à la teshuvah. C'est très remarquable parce que quand on parle de teshuvah, il y a plusieurs domaines qu'il faut travailler. Et quand on parle de Purim, l'un des domaines fondamentaux, c'est l'achdout, l'unité. Quand Haman accuse et dit, on peut leur faire Yeshno Amechad, Mefuzar Meforad Benamim, ça c'est le réquisitoire de Haman. Il dit Yeshno, leur Dieu, il s'est endormi, Yashan. Pourquoi? Parce que ce Amechad, c'est ce peuple qui était Echad, Mefuzar Meforad, maintenant il est dispersé, il est désuni. Et comme il est dispersé et désuni, on peut les casser. C'est pour ça que Esther dit L'erkenant cette Kolayoudim, rassemble tous les Juifs. Et donc, c'est le principe de cette unité. Quand il va voir cette unité nous rapproche d'Hachem. Et quand elle nous rapproche d'Hachem, nécessairement, on peut gagner Amalek. Et c'est pour ça que dans cette dimension de la Teshuvah, qu'on évoque en Elul, qui est le mois parallèle à Adar, c'est le mois qui précède un mois de fête. Hein, dans un cas, c'est Nissan, dans l'autre cas, c'est Tishri. Donc, il y a un parallèle Elul et Adar. Et comme en Elul, c'est la Teshuvah. Et en Hadar, c'est la Teshuvah. Or, Elul, on sait qu'il y a plusieurs sigles qui nous donnent Elul. Anil et Dodiv et Dodili. Mais c'est aussi Ish l'Ereu ou Matanot Evionim. Ish l'Ereu ou Matanot la Evionim. Les Rachetevot, ça fait Elul. Ish l'Ereu, c'est ça, envoyer les cadeaux les uns aux autres et les cadeaux pour les pauvres. Ça fait Elul. Mais ça, c'est Passouk qui est dans la Megillah. Donc, c'est cette dimension de cette unité, de Tzedaka, etc., qui permet de construire pour faire que cette Teshuvah puisse contrer la force de Haman et de Amalek. Dans cette et là j'ouvre une petite parenthèse qui me semble remarquable, c'est que qu'est-ce qui peut nous permettre la dimension de l'achdout, c'est donc les midot, c'est il faut avoir des bonnes qualités et notamment une qualité aussi d'humilité. La gava, l'orgueil, c'est ce qui va pousser une personne à écraser les autres. C'est moi et moi. Alors que quand on va avoir une dimension de la nava, une dimension de. Ça va laisser la place pour l'autre. Comme on voit dans le Beth Amikdash, Om Dim Tzfufim Ushtaravim Revachim. Quand ils étaient debout, ben, ils étaient tous serrés, il n'y avait pas beaucoup de place. Mais quand ils se prosternent, il y avait la place. Donc la dimension d'humilité, humilité qu'on retrouve chez Moshe, humilité qui doit être le principe du mois d'Adar permet cette unité. Or, donc c'est ça, alors pourquoi je voulais cette humilité.
C'est pour ça qu'on ne fait pas de distinction quand on donne un cadeau, on donne à tout le monde. Il n'y a
Ça,
pas
c'est la. Ça,
un qui
c'est.
reçoit, un qui donne. Enfin, fondamentalement, tout le monde doit profiter du système.
Oui.
Ce qu'on dénonce, hein, ils profitent tous du système.
Non, mais on doit donner au anime, je veux bien.
Ouais.
Pour les parties cadeaux, je crois qu'il ne faut pas aller chercher à donner à celui qui a besoin plus qu'à l'autre. Si.
Oui, non. Alors, Mishloach Manot, Ish Lerehu, à partir du moment où on a fait à une personne, on a fait la mitzvah. Donc, le principe de Mishloach Manot, Ish Lerehu, implique que celui qui donne, c'est à qui il donne, et celui qui reçoit, c'est de qui il reçoit. Maintenant, et on va donner, pas forcément à quelqu'un qui a besoin.
C'est ça.
C'est ça. Alors que pour le matin de Vionim, on donne à des pauvres, et là, le pauvre n'est pas obligé de savoir de qui ça vient, et nous, on n'est pas obligé de savoir à qui ça va. Hein, donc, il y a un côté dignité qui est respecté dans le matin de Vionim, mais il y a une expression d'amour qui, elle, est exprimée dans le Mishloach Manot Ish Lerehu. Maintenant,
il faut aller chercher plutôt quelqu'un qu'on aime ou pas nécessairement?
dans Mishloach Manot, alors, c'est, alors, c'est,
L'ardoute. Oui, on devrait chercher quelque chose qui fait, qui crée le lien.
Qui crée le lien. J'ai vu que ce qui était le top du Michel Armanot, c'est envoyer un Michel Armanot à quelqu'un avec qui on était un peu en brouille pour renforcer ou renouer le lien.
C'est l'effet contraire. Hein. Genre, il m'a offert un cadeau, donc il ne peut pas me supporter. Tu vois.
Ça s'appelle réallumer le feu, accentuer le feu.
C'est
ce qu'on dit, ça peut être un cadeau.
Je fais une petite digression par rapport à ça. Par rapport au chiffre qu'on a fait dimanche là, sur les, dans la Maserhet dans Psachim, c'était pas un œuf que j'ai fait, c'était un œuf que j'ai fait à la Rosie. Mais à un moment, on dit pourquoi on doit faire Bitoul ? Bah, de toute façon, t'as enlevé le Hametz. Et la Gemara a dit non, peut-être c'est à cause des Pirourim. Pirourim, c'est les miettes. Après, il dit mais les miettes, ça, c'est une quantité négligeable, c'est pas. Mais à propos de ces histoires de Pirourim, il y a une problématique de savoir s'il y a des. On doit les éliminer, les Pirourim. Est-ce que les livres. Il faut les faire une bdika pour enlever les risques de miettes qu'il pourrait avoir dedans. Et donc, le Chazon Ish, on raconte comme ça que le Chazon Ish, il était martyr là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait 3-4 livres, qu'il vérifiait page par page. Mm-hmm. Tout le reste, il les bloquait, il les vendait. Mais il gardait 3-4 livres, et plutôt tout Pessah, il se faisait sur 3-4 livres. Et alors, on raconte qu'il y avait un contemporain du Chazon Ish, c'est le rave de la Yeshiva de Tchibin. Le rave de Tchibin, c'était un gaon. C'est aussi un très grand, mais ils ne se sont jamais rencontrés. Et parmi les livres que le Chazon Ish a gardés pour Pessah, il y avait le livre du rave de Tchibin.
Toujours les mêmes.
Donc, ouais, il y avait une Gemara, peut-être une Gemara Psachim, et le livre du rave de Tchibin. Et donc. Et en fait, parce qu'il affectionnait ce rave.
Il n'est pas en perdre
de miettes. Et donc, il affectionnait. Et alors, il y a des gens qui sont partis voir le rave de Tchibin. Et on dit, regardez comment le Chazon Ish, il vous apprécie. Sur les milliers de livres qu'il a, il sélectionne 3-4 livres qui va lui permettre de passer Pessah. Donc, ça veut dire que, non seulement, il apprécie. Qu'est-ce qu'il y a du rave de Tchibin dans son unité? Il dit, non, ça veut dire qu'il étudie jamais dans la semaine, dans le reste de l'année. Il n'a jamais ouvert. Ça, c'était le pshat du Rav de Tchibin sur le fait que le Chazon Ish prenait son livre. Pas parce qu'il s'est affectionné, mais parce qu'il a toute l'année, il n'ouvre pas.
Il n'y a pas de miettes qui
tombent. Alors ça, c'était par rapport au... Alors maintenant, il y a un aspect... un aspect remarquable par rapport à tout cela. Alors, j'ai pas vraiment vérifié cet aspect. On va le vérifier ensemble. Dans les lettres de l'alphabet, j'ai entendu Rabusha qui dit que on a que deux lettres qui se font qui sont séparées en deux parties. C'est le hé et le kouf. Toutes les autres lettres, elles ont une connexion, je crois. Elles sont toutes reliées. Hein? Aleph, Bet, Gimel, Dalet, donc Vav, Zayin, Khet, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ayin, Pe, Tzadé, Kuf, Resh, Intaf. C'est ça, c'est les deux seules lettres. Et en fait, ce sont les deux lettres qui sont aux antipodes. La lettre He, c'est avec le Hé qu'Akadosh Baroukh a créé le monde. D'un autre côté, le Kouf peut évoquer la Kedusha ou la grande Touma, puisque c'est un Hé avec un pied qui descend dans la matière. Et donc, pour se déraciner de cette matière, qu'est-ce que nous on fait? On fait des brachot. On doit faire 100 brachot par jour. Et ces 100 brachot, c'est ce qui nous permet... même si on est dans le monde, parce que c'est brachot, c'est dans le monde, mais nous permet d'avoir une assise dans le monde sans s'enfoncer dans la terre. C'est pour ça qu'il y a 100 socles en argent qui sont la base du Mishkan. Ces 100 socles sont les 100 brachot. Donc, c'est intéressant parce que le Mishkan, on aurait pu penser que le Mishkan va tenir debout par le fait qu'on va planter comme une tente, on plante dans la terre des pieux qui vont s'enfoncer dans la terre et qui vont permettre que ça tienne debout. Mmh. C'est pas comme ça que ça marche. Ça tient debout parce que c'est dans... Ça tient debout parce qu'il y a des socles sur lesquels les poutres s'enchassent. Et donc ça tient comme ça grâce à ces socles. Et ces socles sont exactement au nombre de 100. 100 comme le couf. D'accord ? Et donc c'est ce couf qui est la base, mais qui, quand ça va basculer dans la Touma, c'est la dernière lettre de Amalek. C'est la dernière lettre de Amalek. Et Amalek, c'est ce qui va faire rentrer dans la matière. C'est pour ça qu'il s'attaque à la Mila. Amalek, on avait dit, hein, il s'attaque à la Mila. Alors la Mila, c'est ce qui nous permet de nous décoller de la matière.
Et alors, dans le marais, il y a la rue.
Pardon ?
C'est pour ça que dans le marais.
Dans le marais, oui, c'est ça. Et donc maintenant, et c'est remarquable parce que finalement, toute l'histoire va se situer sur le passage du coup fourré. Vous savez que les lettres de l'alphabet, qui sont au nombre de 22, sont composées en trois groupes. Il y a un groupe qui s'appelle les lettres mères, Aleph Memchin. Non, c'est comme ça, c'est fait, Yetzira. Vous en avez 7 qui sont des lettres doubles, que nous on connaît 6, mais en fait il y a, le Resh fait partie, Beget Kefet, ça fait Beget Kaporet, c'est ce qui recouvre, c'est Bet Vet, Gimel Rimel, Zalet, Taf Saf, Ashkenaz, Pefe, Kaf Raf, donc il y a, et Resh, bon, c'est, normalement Resh il ne supporte pas de la Gesh, mais enfin, ça fait partie des lettres doubles. Et donc si vous enlevez les 3 mères et les 7 doubles, il reste 12 lettres. Et donc, chacune des 12 autres lettres se correspondent chacune à un mois de l'année. Mm-hmm. Et donc, en sachant qu'elles sont distribuées dans l'ordre, en partant de Nissan. Donc, Aleph, lettre mère, Bet, lettre double, Gimel, lettre double, Dalet, lettre double. La première lettre libre, c'est le He. Donc, le mois de Nissan correspond à la lettre He.
Le Kaf, c'est autre.
Et Kouf, ce sera Adar. C'est la dernière. Parce que Shin, c'est la lettre mère. Resh, c'est une lettre double. Et Tav, c'est une lettre double. Donc, Kouf, c'est la dernière. Donc, on a Kouf, Adar, He, Nissan. Mm-hmm. On passe de Kouf à He, entre Adar et Nissan. La distinction entre les deux, Kouf, c'est combien ? C'est 100. He, c'est 5. La différence, c'est 95. Aman. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qu'on veut ? Nous, qu'est-ce qu'il fait Haman ? Haman, il s'est attaqué au trône divin. D'accord ? Qui yad al-kes-ya. Al-kes-ya. Hein ? Contre le trône de Dieu. Kes-ya, 20 plus 60, 80 plus 10, plus 5, 95. Qui est marqué Haman ? Parce que celui qui va rétablir ce trône divin, c'est la malchoute de David. Qui c'est David Avdecha ? Qui c'est David ? Qui c'est David ? C'est qui David ? Non, pardon. Qui c'est David ? Qui c'est, donc, 20 plus 60, 80, 81, attendez, oui, c'est ça, 80, 81, plus 4. Plus 14. 95. Qui c'est David, ça fait 95. C'est ça toute la problématique de la malchoute. Quand Haman il fait son tirage au sort avec les dés, vous savez que dans les dés, la somme des faces qui s'opposent fait toujours 7. Ça fait 7. Donc ça veut dire que Le roi qui veut gagner, c'est Agag. Agag. D'accord ? C'est Aman Agagi. Aman Agagi. Mais qui est en dessous quand Agag il veut gagner ? C'est. Alors, donc c'est, ici c'est Vav. 3, ça sera 4. Et 3, c'est 4. Ça fait David. Donc quand David est en haut, Agag est en bas. Quand Agag est en haut, David est en bas. C'est pour ça, Chizé David, Kessia, Haman. Au passage, Haman, c'était un premier ministre, le bras droit d'Hitler, c'est Goebbels.
Ouais.
Et Goebbels, Goebbels, donc Goebbels en hébreu, ça fait Gimel et Bet, 3 et 2, ça fait 5. Lamed, 30, 95. Ça fait 95.
95, c'est quoi?
Goebbels.
Amen.
Amen.
Wow.
Amen.
Mais dis-moi.
Je finis encore juste ça, et puis je te donne un truc. Et c'est pour ça que Hitler, Gematria Amalek. Vous le connaissez, celle-là ou pas?
95 aussi?
Non. Amalek, c'est 240. Maintenant, Amalek, c'est 240. Mais vous avez 4 lettres. Donc ça fait 244, si je rajoute les lettres. Et Hitler, il marche mon zéro, c'est 5 et 10, ça fait 15, et 9, 24, et 30, 54, et 44, non ? Attendez. Non, alors c'est Hitler sans Yud, excusez-moi. Quoi ? Il peut parler de Yud, c'est interdit les Yudin. Donc Hitler, on le reprend maintenant. Donc ça fait 14 et 30. 44. Et le reste fait 244. Hitler, sans le Yud, parce qu'il enlève le Yud, c'est normal. Il ne peut pas le supporter.
On ne peut pas lui mettre un Yud.
On ne peut pas lui mettre un Yud. C'est Yudi.
Ils ont enlevé le Yud. On ne peut pas lui mettre un Yud.
Et c'est pour ça que, pour finir l'histoire sur la Haman, donc Haman, on a dit 95, Gematria, qui c'est, Kessia, qui c'est David. Qu'est-ce que fait Esther quand elle voit que Haman il a fait son décret, etc. Elle appelle qui Non, qui sait.
Elle appelle
Agag.
Non.
Agag.
Mordechai.
Non.
Hegai.
Non. Daniel. Elle appelle Attar. Attar, qui était en fait Daniel.
Ah bon, Attar, c'était Daniel.
Attar, c'est Daniel. Et c'est intéressant parce que Daniel. Daniel. Ça fait quoi, Daniel? 4 et 50, 54 plus 10, 64 plus 1. 65 plus 30, 95.
C'est ça.
Hein, elle est belle ?
C'est pas mal.
C'est pas mal. Ah, mais je t'écoute.
Non, je réfléchissais à ce que tu as dit tout à l'heure. C'était marrant parce que finalement, il y a une grande question. Pourquoi la fête, on l'appelait Pourim ? Bizarre.
Pourim. Ça, j'ai tout un.
Pourim. Parce que finalement, il a jeté le pour. Alors tu dis, oui, mais il a jeté le pour.
Finalement, il était contre.
C'est ça. Hein ?
Il était contre.
Voilà. Mais en fait, si on reprend ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il a fait, Haman ? Il a utilisé 2 dés.
Oui.
2 dés, donc sur chaque face.
Oui.
La somme fait 7.
Oui.
Donc 2 fois 7, 14. 14 David.
Oui.
Donc en fait, Pourim, en fait, c'est le symbole de David. Et en fait, on dit qu'à la fin des temps, ça va faire avec ses Pourim qui va. Donc on est complètement dans la perspective messianique.
Je vais vous faire un petit truc après.
Tu peux expliquer qu'on appelle Pourim.
Pourquoi Pourim? J'ai un petit truc sympathique. Raforman?
Non.
Non, j'ai un truc de Raforman.
C'est vrai qu'en 1897, le Rav Sonnenfeld, qui était le grand Rav de Jérusalem, on lui a demandé de venir bénir Frédéric Guillaume IV.
Oui.
Il a dit, parce qu'il bénissait les chefs d'État. Il a dit, moi, je ne vais pas. Je lui ai dit, pourquoi vous allez faire un incident ? Moi, je ne vais pas. Les Allemands, c'est Amalek. Ouais. Mais qu'il avait raison.
C'est la semaine prochaine, la Hiloula de Rabbi Yosef Zonnefeld. Grand rabbin de Jérusalem. Une puissance phénoménale. Et c'est, alors, quand on voit de tout ce qui a gravité avec le 95, Haman, etc., on comprend pourquoi on mange les oreilles d'Haman. Osnéaman. Osnéaman, pourquoi les... Parce qu'en fait, tout le problème qu'on a, nous, c'est est-ce qu'on écoute les prophètes ? On ne les écoute pas. Et on nous dit que Asarat Atabaat, quand Achashverosh a enlevé sa bague, il a donné à Haman.
On dit que c'est la chose la pire qui soit arrivée.
C'est la chose qui a fait plus que 48 prophètes et 7 prophétesses. Ouais. Parce que là, ils se sont dit, oula, maintenant ça devient trop sérieux. Et là, ils ont fait Teshuva. C'est pour ça que ça a changé l'histoire. Et donc, ça veut dire qu'ils ont entendu, ils ont été perméables au message des prophètes, à cause d'Aman, de ce qui s'est passé avec Aman. Et donc c'est pour ça qu'on fait les oreilles d'Aman.
Mais comment tu peux le lien entre le prophète et ça?
Qu'est-ce que les prophètes ils sont venus faire? Ils sont là pour nous faire nous remettre sur le droit chemin, nous faire teshuva. Mais on les écoute pas. D'accord. La preuve, on est toujours dans la galoute.
Il a juste ça.
Et donc là, quand il a enlevé la bague, ça fait plus que tous les prophètes réunis. Maintenant, donc ça c'était à Sarat à Tabarat. Maintenant. Je vous ai expliqué. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans cette approche et dans cette réflexion, on va comprendre que dans les Ketoret, il y a un lien très puissant. On sait que d'après le Zohar, le mois de Hadar, c'est un mois qui lie avec l'Odora, qui lie avec le Mashiach, parce que le Mashiach, c'est avec l'Odora. Et c'est pour ça que toute l'histoire de Purim, Elle tourne autour de l'odorat. Esther, elle s'appelle Hadassah. Hadass, c'est la mire. Mordechai, c'est Mordechor. C'est la mire. Pas la mire, mais la mire. C'est en ligne de mire. Bon.
Et à Soukot, le fruit qui sent bon, c'est Hadar.
C'est Hadar. C'est Hadar. C'est pas mal. D'accord, c'est pas mal. C'est pas mal. Et maintenant, il en manque un. C'est Halbena. La Halbena. C'est ce qui sent mauvais. Et la Halbena gematria Haman.
C'est des antidotes, ça.
Des antidotes.
Ouais.
Donc finalement, Halbena gematria 95.
Ouais, tu veux dire que pour le projet d'Hachem, on a besoin quand même d'Aman.
Ouais. Ouais. D'ailleurs, vous savez qu'il y a quelque chose quand même qui est très bizarre. Autant on nous dit, Zachor et Asher Asalecha Amalek, souviens-toi de ce que tu as fait Amalek. Mais Amalek qui veut se convertir, on l'accepte. Alors que Amon et Moab, on les accepte pas.
Ouais.
Alors qu'il n'y a pas de haine contre Amon et Moab. Et on dit Mi bene Aman, l'amdu Torah be bnei Brak. Les descendants de Aman, ils étudiaient la Torah à bnei Brak. Vous savez que.
Il y en a.
Actuellement, on a. Vous avez certainement vu des trucs.
Le petit-fils de cet ancien nazi.
Là, c'est ça.
Parce qu'il a eu un mérite. Il a eu un mérite dans la Torah.
Aman.
C'est qu'il a écouté, une Gemara de la part de Mordechai quand il enseignait aux enfants.
Sur les histoires du Homer. Exactement. Alors maintenant que je vous ai expliqué ça, je vais peut-être revenir après sur ce point, mais.